Vous avez des préoccupations, un besoin d'orientation? Radio Tapi réunit des spécialistes compétents dans Tapi Service. Toute une équipe de nos journalistes fait le lien entre eux et vous. Santé, emploi, conseil au monde rural, droits des citoyens, ONG, tous les domaines de la vie sont concernés. Au Tapi Service, de lundi à vendredi, dès 9h dans le Kinshasa. Au Tapi Service, des astuces simples pour sortir des situations compliquées.
Comment éviter les fissures dans les maisons? Des choses, vous êtes avec nous et je crois que les auditeurs auront des réponses par rapport à leurs préoccupations. Et la première question, c'est quoi quand on parle des fissures? Fissures, pente, c'est la même chose.
Et tout à fait, c'est la même chose. C'est bien parce que nous partons par la définition des concepts. Dans les fissures, ce sont des fentes qui se manifeste dans le bâtiment, parce qu'il s'agit des bâtiments ici. Et pour aller plus loin, je peux dire que ces fissures sont comme cause principale de malfaçon dans les constructions. C'est-à-dire que lorsqu'il y a manifestation des fissures dans un bâtiment, dans une maison, la cause principale, c'est la malfaçon. Et à côté de ça, il y a des causes secondaires, c'est-à-dire qu'il y a des fissures liées à d'autres interférences que nous aurons tout au long de l'émission à décortiquer cela.
Voilà, alors si vous pouvez peut-être nous faire une idée trop précise, au début, quelles sont les malfaçons qui peuvent principalement fissurer une construction ou une maison?
Ok, les malfaçons principales, c'est une défaillance de calcul. Quand on parle de défaillance de calcul, c'est soit les calculs de structure ou les calculs de sol. Vous savez, les bâtiments, c'est une masse qu'on impose sur le sol à travers la fondation. Cela suppose des études préalables, les études des structures, c'est-à-dire les poteaux, les poutres qui doivent supporter certaines charges et les transmettre de façon équitable et équilibrée dans la fondation, et la fondation, son tour, les répartit aussi de la même manière dans le sol. Lorsque, au départ, ces études ont failli, donc c'est ça la malfaçon dont je suis en train de parler.
C'est d'abord le calcul.
Oui, les calculs des structures, les calculs des sols, c'est-à-dire que...
Et on a mis à part de calcul.
Oui, ça c'est ce qui entraîne les malfaçons généralement. Mais à côté de ça, il y a des fissures qui sont très légères, c'est-à-dire liées par exemple à la dilatation de matériaux. Le matériau dans le bâtiment respire aussi. Alors, lorsqu'on n'a pas fait un bon dosage des matériaux lors de la mise en œuvre, à un certain moment, en contact avec la chaleur, ces matériaux-là vont manifester une certaine respiration. Et là, ça se manifeste par les fissures que nous appelons les arcs. Celles-là n'ont pas beaucoup de problèmes dans le bâtiment, on peut facilement les corriger. Et on le remarque aussi lorsqu'on a fait la charpente d'une maison et qu'on a négligé de tenir compte des contreventements. Contreventement, c'est tout simplement du bois qui essaie de soutenir le pan ou le ferme entre elles de manière à rendre cette charpente-là solide et stable. Alors, lorsqu'il y a l'absence de contreventement, à un moment donné, avec l'effet du vent, la charpente ou la toiture peut commencer à bouger. Et lorsqu'elle bouge, elle entraîne bien évidemment des conséquences dans le reste de la structure, dans le reste des matériaux du bâtiment. Et petit à petit, ça peut commencer à bouger. Ça aussi, ça entraîne des fissures qui font partie de la deuxième catégorie, des fissures légères. Il y a aussi, vous remarquez, lorsqu'il y a un bâtiment qui est en construction, qui est nouvellement en construction, lorsqu'on n'arrive pas à bien faire l'emboîtement entre les maçonneries en bloc et les structures, vous remarquez qu'entre le D, au niveau des jonctions, il y a des lézards ou des fissures qui se manifestent. Ça fait partie aussi de la catégorie de fissures.
Mais nous remarquons généralement des fissures verticales et des fissures aussi horizontales. Alors, entre l'une ou l'autre, quelle est la fissure la plus dangereuse?
Mais c'est-à-dire, les fissures plutôt verticales, il y a celles qui commencent de haut en bas et l'inverse aussi. Les fissures qui commencent de haut en bas, ce sont des fissures légères dont je venais de parler tout à l'heure. Mmh. Et par contre, les fissures qui commencent de bas en haut, c'est-à-dire qu'elles ont affronté la fondation, et là, elles sont dangereuses pour le bâtiment. C'est-à-dire qu'elles sont dues au malfaçon. Il y a eu quelque part un mauvais calcul, il y a eu quelque part une instabilité, et ça commence à manifester des effets. Et vous avez aussi des fissures horizontales, généralement, elles sont dues au tassement. Le tassement, c'est-à-dire que le bâtiment est en train de se poser. Et là, c'est... Bon, on remarque que ce genre de fissures lorsqu'autour d'un bâtiment, prenons les cas, il y a une maison qui est construite, et puis quelques années plus tard, il y a 4 ou 5 maisons beaucoup plus imposantes qui entourent la première bâtisse là. Et le poids des maisons imposantes entraîne.
Donc aujourd'hui, c'est que nous remarquons particulièrement dans la ville de Kinshasa, des maisons basses, et autour de ces maisons, il y a des maisons à hauteur.
Oui.
Ça peut, un jour, à la longue, créer des problèmes pour d'autres maisons qui sont tout autour.
Tout à fait, parce que les maisons qui s'étassent, les maisons hautes, lorsqu'elles sont en train de s'étasser, elles entraînent, ipso facto, l'enfoncement aussi des maisons basses. C'est ici qu'il faudra interpeller l'autorité qui octroie le permis de bâtir. Parce que lorsqu'on établit les plans directeurs de la ville, c'est-à-dire que la manière dont on doit tracer les routes, la manière dont on doit construire les quartiers, la manière dont on doit placer les équipements socio-communautaires dans la ville, on tient compte de cela. Donc on choisit un quartier, on choisit un secteur, on dit ici on ne pourra pas construire des maisons dépassant des niveaux par exemple. C'est pour que ces effets-là d'entraînement ne se manifestent plus, ou plutôt ne se manifestent pas plus tard. Mais s'il y a des ordres, s'il n'y a pas de réglementation, c'est-à-dire que vous avez une maison plein pied à côté d'une maison R+4, R+5, vous conviendrez avec moi que la manière de ces deux bâtiments de s'enfoncer dans le sol n'est pas la même. Donc il y a le plus imposant qui entraîne le plus faible.
Donc des fissures horizontales, dans bien des cas, sont causées par des éléments
qui sont tout autour.
Oui. Ok. Alors, est-ce qu'on peut prévenir des fissures?
Oui, on peut prévenir des fissures. La prévention principale, la prévention mère, c'est quoi? C'est bien faire traiter les bâtiments par l'expert. L'expert du bâtiment, le chef d'orchestre, c'est l'architecte. Il faut confier l'étude du bâtiment à l'architecte, il faut confier l'étude du bâtiment à l'expert pour qu'il puisse mettre en ligne des comptes, tous ces paramètres, tous ces facteurs, afin de pouvoir amorcer un bon démarrage de la construction. Et comme l'architecte, par idéal, il doit avoir une grande capacité d'anticipation vitale de ce qu'il fait, c'est quand même trop fait du bâtiment.
Okay.
Il doit se dire que, écoutez, voilà, par rapport à cet environnement et de la manière dont je suis en train de construire, dans 5-10 ans, il pourrait y avoir tel phénomène. Alors, il faut que je prévoie, il faut que j'anticipe déjà dans ma conception, dans la mise en pratique de tous les aspects, pour que cela n'arrive plus à péter les bâtiments. Donc, il n'y a pas mille manières de le faire, il faut aller vers l'expert pour que celui-là vous oriente dans l'imposition, dans l'intervention.
Et si ce sont des fissures observées ou constatées juste au moment où on est en train de construire la maison, c'est facile à pouvoir réparer. Mais quand c'est déjà une maison construite et finalisée, 3 ans, 4 ans, 5 ans après, ça sera déjà un peu compliqué.
Oui, ça dépend. Si ce sont des fissures légères, les corrections sont faciles. Parfois, c'est des fissures qui limitent tout simplement au niveau des mortiers, ce qu'on appelle cripsage, qui n'affecte pas les murs, tout ça. Là, on peut décaper et puis refaire la correction. Mais si par conséquent, ce sont des fissures qui ont affecté le bâtiment de par la fondation, ou plutôt lorsqu'il n'y a pas non-respect des portées des poutres, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, là. Donc lié au défaut des calculs, là, il n'y a rien à faire, c'est-à-dire que le bâtiment est en train de s'écrouler. C'est pour ça que ça faire. Après, c'est-à-dire renforcer la structure, ça devient encore beaucoup plus complexe. Il faudra d'abord faire tenir ce qui existe et puis refaire, et ça fait intervenir beaucoup d'aspects.
Et modifier uniquement la partie fissurée, est-ce que c'est l'idéal?
Bon, je peux dire oui ou non. Oui, dans la mesure où c'est des fissures qui n'ont pas d'effet direct, ou plutôt des fissures qui n'ont pas tendance à affecter tous les bâtiments, on peut corriger la partie endommagée. Non, si ce sont des fissures qui sont en train d'embraser les bâtiments d'une façon générale. Vous avez aussi des fissures liées à la vétusté du bâtiment. Vous savez, le bâtiment, c'est comme un être humain. Il naît, il doit vivre, il doit mourir aussi. Mais lorsqu'il est au soir de sa vie, voulu ou pas, donc il est appelé à céder. Et les symptômes, les signes visibles d'un bâtiment vieux, c'est-à-dire c'est la manifestation des fissures, tout ça. Là, ce qu'il faudra faire, c'est raser et commencer. Donc le bâtiment est arrivé à son terme, il a fait son travail, on le fasse pour refaire un autre bâtiment.
081-890-63-77 pour les appels et les 081-070-2050 pour les SMS.
des musiques.
On y va, c'est parti.
Des jingles.
Ah, ça a déjà commencé.
Du rire.
On est à l'hôpital central, ambulance internationale.
C'est Roundup. Tous les samedis et dimanches à 13h20, heure de Kinshasa.
Norbert Dibelaï de Kananga, vous êtes en ligne, bonjour.
Oh, bonjour à tous les auditeurs de la radio Kadi ainsi qu'à l'invité.
Votre question.
Et voici un peu la question que je voulais poser à l'invité. Concernant la construction d'une maison, le constructeur a bien construit la maison. Mais il y a un problème au niveau des avenues. La maison est bien construite, mais la pluie dérange toujours la maison. Est-ce qu'on peut dire que c'est un mauvais calcul du constructeur ou bien c'est le problème de la pluie? Parce qu'il n'y a aucun problème concernant le... Parce que ce qui s'est passé dans notre parcelle, le constructeur a bien construit la maison, mais le papa a commencé à regretter, hein, à dire que non, c'est le constructeur qui a dérangé la maison. Je lui ai dit aussi longtemps que le constructeur a fait son travail, le problème n'est pas au niveau de la construction, mais c'est au niveau de la pluie. En fait, comment aider un peu dans
ces choses? Voilà, des choses, si je comprends bien, c'est un problème d'évacuation, hein, d'eau peut-être sur l'avenue, ou peut-être des maisons qui sont construites tout autour, hein, qui viennent, je ne sais pas, des éléments qui dérangent un peu la construction.
Ok, si j'ai bien compris la question, si c'est la pluie qui pénètre dans le bâtiment, c'est-à-dire que là, il y a un problème. Parce que la maison, c'est un abri. Abri contre les intempéries. La pluie fait partie des intempéries. Lorsque, dans les cas d'espèce, ce sont les pluies qui entrent dans le bâtiment, donc là, il y a un problème au niveau du constructeur. Mais si c'est un problème d'assainissement, d'évacuation des eaux, c'est-à-dire que là, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en ligne de compte, la ville est appelé aussi à contribuer à l'assainissement. Les constructeurs aussi, il n'est pas allé jusqu'à l'aménagement extérieur. Parce que la mission complète de l'architecte, c'est-à-dire, c'est même l'aménagement extérieur aussi. La ville ne se limite pas tout simplement au niveau du bâtiment. Vous pouvez construire, bien sûr, c'est un abri, mais tout autour du bâtiment, lorsqu'il n'y a pas l'aisance, lorsqu'il n'y a pas de confort, lorsqu'il n'y a pas tous ces mécanismes d'évacuation des eaux, de dépôt de déchets, c'est-à-dire que vous n'avez pas fini la mission complète. Parfois, la plupart des clients pensent que la mission se limite à l'abri. Et lorsqu'on lui a mis la peinture, il a la clé, il s'est dit, bon, écoutez, le reste, je vais m'en occuper moi-même, je peux mettre la pelouse ici, je peux mettre les allées là-bas. Non, il faut aller avec l'architecte jusqu'à la fin, parce qu'il sait que cette parcelle a une pente qui se déverse dans tel sens, et que là, il y a la route principale, la route secondaire, comment je peux évacuer les eaux, où se trouve le versant le plus fort, qui a beaucoup de débits d'eau, et comment je peux les canaliser. Donc, comme on n'a pas les cas devant soi, d'une façon générale, c'est soit que l'architecte n'est pas allé jusqu'à la fin avec sa mission, peut-être qu'on ne lui a pas donné l'occasion, ou soit... Pour revenir à ce que j'ai dit, si ce sont les pluies qui pénètrent dans les bâtiments, et là, il y a un problème de dépôt de conseil.
Oui, encore vos propos, des choses, c'est comme si vous donnez raison à ceux qui disent qu'une fissure peut être liée également à l'âge de la construction.
Oui, ça je confirme, la fissure peut être liée à l'âge de la construction. Lorsqu'on construit, je me répète, c'est minimum pour 100 ans. Donc, c'est-à-dire que quand la construction est bien faite, il doit vivre pas moins de 100 ans. Et puis, jusqu'au-delà. Et à un certain moment donné, de par son poids propre, le poids propre de la maison elle-même, donc certains matériaux vont commencer à céder, peuvent commencer à céder. Parce que c'est comme quelqu'un qui supporte une charge, et puis cette charge-là est supportée par une autre, ainsi de suite, à un moment donné, en longueur d'année, donc ça va fléchir quelque part. Donc là aussi, ce sont des cas, mais qui ne sont pas très fréquents, vous savez. Les villes ici en RDC ont commencé à naître il n'y a pas très très longtemps. Les maisons en dur, je crois que c'est beaucoup plus vers les années 50-60 qu'on a commencé à les connaître. Donc, il n'y a pas tellement beaucoup de cas pareils à travers les villes congolaises. Donc, s'il y a des fissures, il faut un petit peu...
Non, il y a une curiosité, là. En fait, en observant aujourd'hui les bâtisses des églises catholiques, aujourd'hui, quand nous disons des églises construites à circuit, c'est pas des briques un peu rouges, voilà, mais c'est que nous voyons souvent à Kassangoulou. Aujourd'hui, la plupart de ces églises, en fait, montre être 100 ans, 120. Est-ce qu'il y a des explications particulières à donner à ce niveau? Parce qu'on remarque même pas de fissures.
Bon, je ne peux pas dire qu'il y a une préférence des matériaux par rapport à d'autres. Parce que vous faites allusion au brick quick, la tendance oui. peut-être pour dire qu'est-ce qu'il y a en construisant avec le brick quick, on donne une longue vie au bâtiment, on écarte moins les fissures, et qu'en construisant avec le ciment.
On remarque que ça devient aussi la mode, hein. C'est des temps, les gens vont acheter des brick quick à Kassangoulou pour construire des maisons.
Vous savez, la nature humaine, elle est insatisfaite à tout point de vue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'est dit non, voilà. Construire avec des blocs en ciment, peut-être c'est moins coûté, ou bien ça appelle tel problème, il faut recourir à cela. C'est comme autre temps, on construisait des maisons en toiture cachée, mais actuellement, regardez ce qu'il y a à travers la ville. Donc ça, c'est un comportement tout à fait subjectif ou qui est comportement.
Ce qu'ils appellent communément architecture indigénienne.
Entre guillemets.
Entre guillemets, le vrai nom, c'est quoi?
Non, l'architecture a toujours été impersonnelle, ça, c'est mon point de vue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une architecture liée à un peuple, il n'y a pas une architecture liée à une culture, mais plutôt à une civilisation, à une époque. Lorsqu'on dit architecture nigériane, c'est parce que la plupart de ces maisons, on a commencé à le voir à travers les films et les théâtres nigériens qui passent sur nos chaînes de télévision.
Donc le vrai problème, c'est qu'il faut éviter de malfaçons en début déjà de la construction.
Voilà, c'est ça le grand problème, c'est ça le nez du problème. Lorsqu'au départ, le bâtiment est bien conçu, lorsque les dosages des matériaux, lorsque la mise en œuvre est bien respectée, lorsqu'il y a un suivi régulier et efficace, donc dites-vous bien que le bâtiment vivra sans beaucoup de problèmes.
Donc, lorsqu'une structure a commencé à perdre sa rigidité par suite des fissures résultant des variations saisonnières d'humidité, voilà, on observe quand même, selon certaines sources, des désordres qui peuvent s'accroître. On remarque des fissures presque dans tous les sens, dans toutes les façades. À quoi est dû cela?
Il y a aussi une autre variante incidentielle qui cause des fissures dans les bâtiments. Je prends un cas. Aujourd'hui, l'architecte est en train de concevoir un bâtiment à côté d'une route dans l'asphalte qui n'a pas beaucoup d'importance. Avec les temps, et puis l'État se décide, par exemple, de donner beaucoup d'importance à cette route-là, de l'élargir, de la rendre carrossable. Et la fréquence des véhicules devient beaucoup plus importante qu'elle l'était auparavant. Donc, dites-vous bien qu'il y a maintenant des incidents sur les bâtiments. Les bâtiments commencent à connaître à tout moment des secousses, et ces secousses-là peuvent affecter les bâtiments en désordre. Donc, on remarque des fissures en avant, en arrière, à gauche, à droite. C'est le cas du séisme raté, par exemple. C'est le cas des constructions qui sont... actuellement, il y a des gens qui font des occupations anarchiques.
Des maisons qui sont conçues toutes les longues rails, par exemple.
Voilà.
De voies ferrées, ça peut, à chaque fois, crier...
Oui, imaginez-vous que s'il y avait le trafic de la locomotive, ou deux fois la semaine, ou deux fois le jour, imaginez-vous ce que deviendrait une maison qui est à 5 mètres d'une voie ferrée. C'est-à-dire qu'elle n'a pas longue vie, au bout de 15-20 ans, c'est une maison fissurée de toutes parts. Ce sont des incidences qui affectent aussi.
Nous avons des auditeurs en ligne. D'abord Jean-Luc, de Colosie. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour.
Votre préoccupation?
Ma préoccupation est de la mesure prévisionnelle. Hein. Je me dis, comment pouvons-nous éviter les fausses fissures au niveau de la fondation? Quels sont les paramètres que nous pouvons mettre en compte pour éviter les fissures?
Au niveau de la fondation. Merci Jean-Louis. Charlie, vous nous appelez de Canada, bonjour. Quelle est votre question?
Je voudrais juste savoir si la construction de maison le long d'un chemin de fer, si ça peut vraiment provoquer des fissures. Et puis, je voudrais aussi savoir si la réponse est oui, s'il est possible d'organiser des séminaires avec les gens du cadastre pour les former afin qu'ils évitent de vendre des terrains le long des chemins de fer.
Voilà, merci Charlie. Nous rappelons à nos auditeurs qu'ils peuvent participer à cette émission en composant les 081-890-63-77.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capucardi.
Bon, j'étais de Okapi Service, c'est Deschaux Ngandou, architecte. Deschaux, vous avez suivi la question de Jean-Louis, et quels sont les paramètres pour éviter les fissures au niveau de la fondation, et Charlie, qui a aussi une préoccupation très pertinente.
Ok, merci Jean-Louis pour la préoccupation. Vous avez tout droit au but. La fondation a pour rôle principal de supporter toute la charge d'une maison et la transmettre de manière équitable dans les sols. Alors, cela suppose qu'il y a une étude préalable qui doit être faite pour les dimensionnements de cette fondation-là. Donc, c'est-à-dire qu'on doit se dire qu'elle ne doit pas être de 40 cm, elle doit être soit de 50, 60, 80 cm. Elle doit être d'une profondeur X, Y ou Z. C'est par rapport à la charge qu'elle est appelée à supporter pour longtemps. Donc, il y a les calculs de fondation, il y a la portance du sol qui entre en ligne de compte aussi, et l'expert détermine ces dimensionnements-là, ce sont les préalables qu'il faudra prendre. Donc, il doit vous dire que non, voilà, par rapport à ce que vous voulez faire, j'espère, ou plutôt les calculs démontrent que, à cet endroit, il faut une fondation de telle profondeur, il faut une fondation de telle largeur, il faut un béton de propriété de telle épaisseur, il faut une chatte armée ou non armée. Ces paramètres-là, une fois mis ensemble, ils vont vous donner un bon départ. Et aussi, on a toujours une manière d'extrapoler. Lorsque les bâtiments à construire est appelé à supporter des niveaux, on fait les calculs pour 4 ou 3 niveaux, parce qu'on ne sait jamais. Avec les temps, l'usager peut se dire non, que j'ajoute un autre niveau. Alors, il ne faudra pas qu'il soit limité par les calculs qui étaient faits au préalable par l'architecte. Il faut lui donner la latitude, la marge de manœuvre pour que plus tard, avec la croissance démographique, avec les besoins qui peuvent s'augmenter, avec les autres, l'environnement qui peut changer, hier c'était une maison d'habitation, ça peut devenir une maison commerciale, ça peut devenir un bureau, tout ça, mais il faut donner au client la marge de manœuvre pour que plus tard il arrive à s'exprimer.
Et alors, dessous, aujourd'hui, comment on peut arriver à mesurer la gravité d'une fissure, hein? Donc, est-ce qu'il y a des modèles types? C'est pas moi, peut-être une jauge pour mesurer, pour dire, ben voilà, ça c'est vraiment une fissure très dangereuse, et dans l'espace de telle année, ça peut peut-être causer l'effondrement ou l'effondrement de mur.
À ma connaissance, sinon il n'y a pas de jauge, mais rien qu'à travers l'observation, lorsqu'une fissure est provoquée par un choc déjà dans la fondation, on sait voir à quelle vitesse la fonte est en train de se
faire.
On a les unis, et puis prendre des précautions. On s'est dit, non, à l'allure où ça va, c'est-à-dire que d'ici 2-3 mois, nous allons perdre la bâtisse. Parce que la croissance, l'écartement est en train de se manifester à plus grande vitesse. Donc, rien que de par l'observation, on peut déterminer ce que les bâtiments vont devenir à cause de l'affectation, de son affectation par la fissure.
Donc, une fissure qui commence aujourd'hui peut aller même jusqu'à 10 ans.
Ça dépend, il est difficile que je détermine parce que ça dépend aussi de la nature des fissures. J'ai donné des sortes de fissures et si ce sont des petites lézardes, ça peut rester le plus longtemps possible dans le bâtiment, 15-20 ans. Mais seulement c'est désagréable d'entrer dans une maison où vous avez des fissures sur les crépçages à gauche, à droite. C'est pour cela qu'il faut éviter, il faut chaque fois corriger cela.
Charlie a posé la question, Charlie de Canada.
Oui, voilà. Je reviens sur la question de Charlie et elle a demandé si on peut construire les longs d'une voie ferrée.
Voie ferrée.
Et dans la nuance où la réponse est positive, qu'est-ce qu'il faudra faire avec les gens de cadastre? Dans la nuance où la réponse est négative, qu'est-ce qu'il faut organiser des séminaires avec les gens de cadastre, c'est-à-dire le conservateur qui octroie des propriétés afin d'éviter cela. La réponse est non. Il y a des normes pour construire les longs de voies ferrées. Généralement, on recommande ils font une distance de plus ou moins 15 mètres des parts et d'autres de la voie ferrée. D'abord, pour éviter que la fréquence de la locomotive, des passages de la locomotive, ne puisse avoir une incidence directe sur les bâtiments et avec conséquence créer des fissures. Et puis d'aider pour épargner les habitants des accidents. Vous savez, le train, lorsqu'il fait un déraillement, généralement, il s'enlace comme un serpent.
Ouais.
Et la tendance, c'est peut-être qu'il peut faire en premier tour et puis un deuxième. De par sa hauteur, sa largeur, on estime que s'il a fait deux mouvements, il peut aller jusqu'à 10 à 12 mètres. Et les bâtiments qui commencent à 15 mètres étaient épargnés. Donc ce sont les deux causes principales là. et les normes exigent qu'on ne soit pas en deçà de 15 mètres par rapport au passage.
Rifa de Lubumbashi, bonjour. Bonjour Rifa.
Bonjour.
Votre question?
Oh, je salue vous tous l'invité.
Merci beaucoup.
Je suis très intéressé par le sujet que vous êtes en train de débattre.
Votre question?
Bon, en fait, je voulais juste demander à l'invité, parce que le sujet du prêtre fait appel aux ingénieurs consulteurs aussi, bien entendu aussi aux architectes, mais je n'ai pas entendu l'invité dire quelle importance ont les ingénieurs construction par rapport aux problèmes qui peuvent se poser. Bon, ma question est la suivante. Je vais juste demander plutôt à l'invité si il peut me dire quand est-ce qu'un ingénieur constructeur est important par rapport aux problèmes qui peuvent se poser. Quand est-ce qu'un architecte peut commencer son travail, quand est-ce que l'ingénieur peut, ou bien c'est un ingénieur, s'il y a un ingénieur sur un chantier ou qui doit construire une maison, il n'a pas besoin d'un architecte, ou bien si un architecte est là, il n'a pas besoin d'un ingénieur, et les études, comment est-ce qu'elles se font, quelle peut être la part d'un architecte, quelle peut être la part d'un ingénieur constructeur pour éviter tous ces dégâts sur les déconstruire les constructions.
Merci Richard. Christophe de Goma, bonjour. Bonjour Christophe.
En fait, je voulais poser une question à l'invité. Moi, je reste à Goma et Goma, c'est une ville à proximité de volcans, en fait, une région volcanique. Alors, ce qui est vrai que moi, je connais rien en matière d'architecture, mais c'est que je sais que des fois, nous connaissons des formes de tremblements de terre, et les tremblements de terre sont une cause de soucis dans certaines maisons. Alors, je voulais savoir ou demander à l'invité si, comment on peut faire, comment on peut construire dans une ville comme Goma, une ville volcanique comme Goma, pour éviter des fissures.
Merci Christophe. Deschaux, vous avez deux questions. La première, celle de Rifa, et puis l'autre question de Christophe. Que répondez-vous à ces deux auditeurs?
Ok, merci beaucoup. Je commencerai par celle de Rifa. La première est la plus importante. Elle permet d'éclairer la lanterne sur certaines choses. Lorsque je mets en évidence l'architecte, je n'exclus pas les autres partenaires du bâtiment. L'architecte, tout à l'heure, là, si vous m'avez suivi au mot, j'ai parlé de chef d'orchestre. Un chef d'orchestre, c'est-à-dire qu'il a tout autour de lui, les gens qui l'accompagnent dans la mise en œuvre. Il y a les installateurs sanitaires, il y a les ingénieurs électriciens, il y a les ingénieurs spécialistes dans le montage des ascenseurs, il y a des ingénieurs en bâtiment et travaux publics, il y a des ingénieurs en topographe, c'est que chacun intervient à un certain moment donné. L'architecte, en tant que chef d'orchestre, il détermine, lui, à ce moment, j'évolue avec l'ingénieur, parce que c'est ce moment qu'il doit entrer en ligne de compte. Ici, je fais appel à l'ingénierie de proie, parce que c'est le moment où il doit entrer en ligne de compte. Donc, l'œuvre de la construction d'une maison n'est pas l'apanage de seul architecte. Mais seulement, il est là pour coordonner les choses. C'est ainsi que, en fait, quelque part, on dit, il est appelé à connaître le pied de tout. Alors, il ne faudra pas qu'il soit là pour gober. Quand le spécialiste du proie vient, il lui présente ce qu'il doit faire. Il faut qu'il ait une voix au chapitre. Il faut qu'il ait quelque chose à dire. Donc, c'est un conseil.
L'idéal, c'est d'avoir un architecte généraliste.
Par idéal, il est appelé à connaître beaucoup de choses. Mais il n'y a pas un architecte généraliste, mais il doit savoir coordonner, faire la coordination. Pour ne pas faire intervenir la personne qui n'est pas appelée à intervenir à ce moment-là, ou plutôt, créer en désordre, sinon ça sera la tour de Babel.
Rapidement, on répond à la question de Christophe, à Goma.
Oui, Christophe, en fait, de façon ramassée, il demande quelles sont les précautions à prendre pour construire dans une région où il y a des séismes, des tremblements de terre, par exemple. C'est le cas d'Haïti, ça fait une année maintenant, Haïti a connu des tremblements de terre. J'ai des amis qui sont passés par là, lorsqu'ils reviennent, ils déplorent la manière dont on a construit. C'est-à-dire des constructions trop légères, et peut-être les gens sont morts à cause de l'ignorance, tout simplement à cause de la négligence. Et actuellement, avec l'avancée de la technologie, on est en train de faire des études pour réussir à construire dans un environnement où il y a des séismes répétés, comme des régions Haïti, Goma, tout ça. La cause, c'est quoi? Ce n'est pas stabiliser l'ouvrage. C'est faire en sorte qu'il résiste pendant un certain nombre de temps. En termes de minutes ou d'heures, afin de permettre aux usagers de vite évacuer les bâtiments. parce que le séisme, c'est une force qui n'est pas encore maîtrisée. Et lorsque ça vient, on ne sait pas à quelle vitesse, avec quelle force il vient. Et l'idéal, pour le moment, avec les études technologiques, c'est arriver à faire résister les bâtiments, tant soit peu, pour permettre aux usagers d'évacuer le plus vite possible. Donc, il y a des constructions séismiques, si vous permettez l'expression, et c'est tout simplement lié au renforcement des structures, au choix de matériaux appropriés. Franchement, je n'ai pas encore beaucoup pénétré les domaines pour pouvoir donner des...
On peut faire l'objet de sujet très prochainement. Merci Décio Ngandou, architecte, d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir accepté d'éclairer un peu la lanterne des auditeurs autour de cette question. Comment éviter les fissures dans les maisons. Nous y reviendrons très prochainement. Encore merci et à très bientôt.
Ok, c'est à moi de vous remercier aussi et de remercier tous les auditeurs qui ont posé cette question.